Radio Okapi. Okapi. Présenté par Belinda Bosuma.
La MONUSCO encourage l'initiative congolaise dans la lutte contre le Covid-19 en RDC. Pour la chef de la mission, il faut par exemple acheter les masques produits dans le pays que de les importer de l'étranger. Leila Zerougui est l'invitée de ce matin. Bientôt la mise en place des laboratoires de dépistage du Covid-19 dans chaque province de la RDC. Annonce du Premier ministre hier à l'Assemblée nationale. Sylvestre Ilunga a également déroulé la stratégie du gouvernement pour atténuer les effets de cette pandémie dans les secteurs de la santé et de l'économie. Dans ce journal aussi, les difficultés qu'éprouvent actuellement les médias à cause du coronavirus. Le Potentiel, par exemple, l'un des quotidiens les plus lus de Kinshasa, a dû déménager sa rédaction de la Gombe en confinement vers la Fikine à Lemba. Madame, Messieurs, bonjour. Lutte contre le coronavirus en RDC. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU salue les initiatives locales. Madame Leila Zerougui affirme qu'au lieu de les importer de l'étranger, la MONUSCO a pris l'option d'acheter pour le compte de son personnel militaire, notamment les masques produits en RDC. La patronne de la MONUSCO s'est confiée hier à Radio Okapi. Elle est au micro d'Honoré Missenga Kalala.
D'abord, il faut saluer ce genre d'initiative parce que, comme vous le savez, le monde entier est occupé à gérer ses propres problèmes. Et on doit justement, je le dis sans arrêt, essayer de compter un peu sur soi-même. On ne peut pas dépenser des milliards pour ramener des masques de l'étranger. Comme vous voyez, moi je porte un masque congolais. Donc, dès le premier jour, on a essayé d'encourager ce genre d'initiative. On a commencé à travailler en interne pour que même la MONUSCO, au lieu d'importer des masques, achète des masques locaux. C'est ça la première initiative. Je sais qu'il y a des programmes qui sont prévus aussi pour appuyer certaines communautés vulnérables, pour les aider à utiliser cette activité pour engendrer des revenus.
La chef de la MONUSCO est l'invitée de ce journal. Parlant des initiatives locales justement, sachez qu'un premier respirateur artificiel pour soigner les malades du coronavirus vient d'être fabriqué en RDC. Cet appareil est l'œuvre de l'UOB, l'université officielle de Bukavu. Il a été présenté mardi au gouverneur du Sud Kivu. Le recteur de l'UOB a saisi l'occasion pour demander de l'aide du gouvernement et d'autres partenaires afin de fabriquer ces machines en grand nombre. Emmanuel Elameji nous en parle.
C'est le recteur de l'Université officielle de Bukavu qui a présenté le prototype du respirateur artificiel fabriqué dans son institution, un appareil simple capable de contrôler la respiration et l'expiration du malade, aussi de désinfecter l'air avant de le relâcher dans la nature. Jean Berkmans Mohigwa, professeur ordinaire, demande au gouvernement congolais
de soutenir le renforcement de l'atelier de l'IOB où seront fabriqués et multipliés ces respirateurs, de soutenir la certification et la demande d'appui financier introduite auprès du FPI au profit de ces respirateurs.
Le gouverneur de province dit tout son soutien à l'UOB et se dit fier de cette ingéniosité des intellectuels du sud de Kivu. Théo Ngwabi Diekasi.
Au nom du gouvernement provincial, on voit qu'on n'a pas besoin de recourir ailleurs. On a des réponses locales aux problèmes majeurs qu'est le Covid-19. Vous avez donc notre soutien. Nous allons faire le plaidoyer au niveau des partenaires pour que demain nous puissions avoir ces machines en grand nombre.
Signalons que l'Université officielle de Bukavu était la première institution de l'enseignement supérieur universitaire à Bukavu à lancer l'idée de la fabrication locale de masques de protection et du gel hydroalcoolique. Emmanuel Elamejoa Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Par ailleurs, le problème lié au dépistage massif du Covid-19 pourrait être bientôt résolu par la mise en place des laboratoires de dépistage dans chaque province. C'est ce qu'a annoncé hier à l'Assemblée nationale le Premier ministre. Le chef du gouvernement congolais se félicite que la RDC ait pu contenir, selon lui, cette maladie, empêchant ainsi des contaminations à très grande échelle. Devant les députés nationaux, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a également déroulé la stratégie du gouvernement pour atténuer les effets de la crise du Covid-19 dans les secteurs
secteurs de la santé et de l'économie, des propos recueillis par Michel Kifindangoy.
En vue de faire face au spectre de la récession qui se profile à l'horizon, le gouvernement a entrepris l'élaboration d'un programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des effets du COVID-19 qui s'articule autour de trois axes prioritaires, à savoir 1. La riposte, la surveillance au COVID-19 et le renforcement du système de santé à travers un projet holistique et efficace de prise en charge de la maladie. 2. Le soutien à la stabilité macroéconomique et à la relance de l'économie à travers la mise en œuvre de mesures d'appui aux activités économiques et d'encadrer le secteur productif. 3. L'atténuation des risques et les soutiens aux populations à travers des mesures et actions devant répondre aux besoins minimums des populations pendant la période de crise.
Entre-temps, 863 cas confirmés de COVID-19, 36 décès et 103 personnes guéries. C'est la situation actuelle de cette pandémie en RDC. Pour la journée d'hier, l'équipe de riposte rapporte 63 nouveaux cas confirmés sur les 374 échantillons testés, tous enregistrés à Kinshasa. Un nouveau cas de décès a été signalé alors que 11 personnes supplémentaires ont été déclarées guéries. Actuellement, le pays compte 355 cas suspects en cours d'investigation et 602 patients en bonne évolution. Au niveau des provinces, Kinshasa est toujours en tête avec désormais 810 cas sur les 7 provinces touchées. Dans l'actualité aussi, ce constat à Kinshasa, depuis le confinement de la commune de la Gombe, prostituées et enfants vivant dans la rue appelée Chege se sont déversés dans la commune voisine de Lingwala. Extorsion des biens des passants et mendicité caractérisent les Chege. Les professionnels du sexe se plaignent, elles, de leurs conditions de vie devenues difficiles depuis que leurs clients et elles-mêmes n'ont plus accès à la commune de la Gombe. Paul Matendo a suivi certains Chege prostitués à Lingwala. Suivez son reportage.
Chaque jour, plus tard dans la soirée, au croisement des avenues Niangwe et Mouchi, l'un des centres attractifs de la commune de Lingwala, enfants de la rue et prostituées se côtoient. Tous plaident pour le déconfinement de la commune de la Gombe, leur milieu habituel, comme le dit Christian Betty, l'un d'eux. Il faut rouvrir la commune de la Gombe. Ces derniers jours, on souffre. Pour manger, il faut mendier ou voler. Même son de cloche pour une fille qui vit du vieux métier du monde et qui n'a pas voulu s'exprimer à notre micro. Le coronavirus porte préjudice à sa vie, dit-elle. Si elle reconnaît la présence de cette maladie, ce n'est pas le cas pour Papi Kalachi, un autre enfant de la rue. Plusieurs épidémies se sont déjà déclenchées dans notre pays, mais nous n'avons pas peur de cette maladie. Nous mangeons avec des mains malpropres. Nous ne savons pas si cette maladie existe réellement. À la question de savoir s'ils ne sont pas traqués par la police, Chris répond. Oui, les policiers nous arrêtent, mais au bout d'un certain moment, ils nous relâchent. Interrogé, l'un des commandants de la police affirme que cette situation ne peut être résolue que par la haute hiérarchie de la police nationale congolaise.
Vous le savez, les conséquences de la pandémie du coronavirus se font sentir dans tous les secteurs de la vie. Les médias en particulier, la presse écrite, sont aussi frappés par cette crise sanitaire. C'est le cas du quotidien Le Potentiel, l'un des plus lus de la capitale, mais qui aujourd'hui éprouve des difficultés pour produire. Jean-Pierre Elali Ikoko s'est rendu au Potentiel. Il nous raconte ce qu'il a vu.
La rédaction du journal Le Potentiel sur l'avenue Bakongo dans la commune de la Gombe est déserte. Seuls les gazouillements de moineaux aux alentours et un garde est commis pour des renseignements. Ici, le silence contraste avec la notoriété du journal. C'est dire que la rédaction a momentanément déménagé pour l'Afikine. Cette délocalisation est due au confinement de la Gombe. La majorité de l'équipe rédactionnelle ne peut y accéder. L'impact du phénomène COVID-19 est visible au Potentiel. Comme le reconnaît Pichu Mulamba, rédacteur en chef du quotidien.
Évidemment, c'est une crise qui nous touche de plein fouet parce que la crise impacte d'abord notre production. Nous avons été contraints à réduire à environ 60% notre production qui était entre 2000 à 3000 exemplaires au quotidien. Nous tirons aujourd'hui entre 1000 à 1200 exemplaires simplement.
Enfin, comment vu les journalistes du quotidien, le premier pourvoyeur des infos, là aussi, la réponse est claire. Le journaliste subit le soubresaut de la crise.
Donc, pour l'ensemble du personnel, on a imposé le télétravail. L'évidence est que c'est difficile. D'abord parce que le télétravail impose d'autres coûts. On est loin des bavardages de bureaux et des fois loin de certaines réalités des terrains. C'est quand même un coût pour notre travail. Et il y a les différentes réunions au niveau de la direction du journal, évidemment, pour prendre en compte les contraintes salariales, etc.
Malgré ces chapelets des difficultés et des défis à relever, la direction du journal tient le gouvernail de peur de voir le navire chavirer.
Et dans notre série de reportages consacrée aux conséquences de la pandémie du coronavirus sur le sport, nous parlons aujourd'hui des handball. Les équipes nationales des filles et garçons ainsi que les clubs se sont vus privés l'occasion de participer à plusieurs compétitions internationales au niveau africain et mondial. En attendant la reprise des activités sportives, les différents staffs techniques des handball plaident pour l'obtention des moyens financiers et techniques pour maintenir leurs athlètes en forme pendant cette période de confinement. Kanish Mukongo nous décrit la situation dans cette discipline sportive.
L'actuelle préoccupation de la direction technique nationale de la Fédération de handball de la RDC, c'est comment garder l'état de santé de tous les athlètes qui sont dans les effectifs des équipes des différentes catégories. Les suivis des athlètes devra partir des sélections nationales féminines et masculines en passant par le club pour finir par le handball scolaire. L'objectif, préparer l'après-Covid-19 malgré les compétitions ratées. C'est ce qu'affirme le directeur technique national Jean Bosco Ndali Wanzapa.
On avait une préparation pour le Challenge Trophy. En plus, il y a les garçons qui sont qualifiés en Coupe du Monde. Nous ne savons pas les suivre pour une bonne préparation parce que le niveau mondial, nous les Africains, ça demandait beaucoup de préparation pour que nous présentions une bonne figure. Et aussi les filles qui devaient se préparer aux Coupes d'Afrique des Nations. Les garçons en seniors, et ça nous a posé un peu beaucoup plus de problèmes.
Entre-temps, l'entraîneur Guy Canoa du club Héritage des filles de Kinshasa a anticipé pour garder ses athlètes en forme.
C'est la question sur capricieuse. Personne ne travaille. Donc, on est obligé de leur donner les exercices pour qu'elles travaillent dans la maison, dans la cour. Tous ceux qui sont ici à Kinshasa, de temps en temps, je ne dis pas qu'ils sont là, ils sont en train de travailler, de courir, de faire des cordes, surtout sur le plan physique.
Rappelons que le handball est dans les top 5 de classement des disciplines les plus pratiquées en RDC, en dehors de football, basketball et volleyball.
Actualité internationale. N'Djamena, la capitale du Tchad, va être isolée du reste du pays à partir de demain vendredi et ce, durant 15 jours. C'est pour empêcher la propagation du Covid-19 dans ce pays pauvre et au système de santé défaillant. Les entrées et sorties des personnes dans la ville de N'Djamena sont interdites pour 2 semaines renouvelables à compter du 8 mai 2020, indique un arrêté du gouvernement signé hier. Du côté du Nigeria, les autorités de l'état de Jigawa, dans le nord du pays, ont annoncé hier enquêter sur des dizaines de décès survenu dans cette région très pauvre quelques jours après que l'État voisin de Kano a attribué au coronavirus plusieurs dizaines de morts mystérieuses. Une centaine de personnes sont mortes ces quatre derniers jours. La plupart des victimes étaient des hommes âgés, entre 60 et 80 ans, a expliqué à l'AFP un résident du district d'Adedja, dont un membre de la famille est décédé.
L'invité.
Le confinement et d'autres mesures édictées par les autorités servent à éviter la propagation du coronavirus. Elles permettent aussi aux autorités et au système de santé de s'organiser et de se préparer pour ne pas être débordés. C'est ce qu'affirme la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Madame Leila Zerougui, et notre invitée. Elle répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Madame Leila Zerougui, bonjour.
Bonjour.
Ça fait déjà près de 2 mois depuis les premières mesures de riposte contre le Covid-19 en RDC, 4 semaines de confinement partiel à Kinshasa. Quelles premières leçons vous tirez d'une part par rapport aux autorités congolaises, au comportement des Congolais, et d'autre part par rapport à la MONUSCO?
Comme je suis moi-même confinée, je ne sais pas si je peux avoir toute la dimension des conséquences du confinement, mais je voudrais simplement dire que c'est des mesures nécessaires. La RDC suit ce qui est déjà appliqué dans tous les pays. On parle d'une pandémie. C'est quelque chose qui a affecté beaucoup de pays. Donc, peut-être fort heureusement pour nous, c'est que ça arrive plus tard chez nous et donc ça nous a permis un peu de voir comment les autres pays ont travaillé. Vous savez, le confinement, les mesures de distanciation, c'est éviter la propagation du virus. Mais c'est aussi pour permettre aux autorités, au système de santé de s'organiser, de se préparer, de ne pas être confronté à des milliers de cas qui arrivent le même jour et on est dépassé. Donc, c'est important de pouvoir éviter la propagation du virus afin de permettre à ce que la médecine avance, se prépare. Je pense que c'est positif, en tout cas du côté de la MONUSCO. J'ai dès le premier jour donné des instructions très claires que nous devons suivre et exécuter les instructions qui viennent des autorités. Nous devons prendre les mesures pour que nous-mêmes ne soyons pas un vecteur de transmission de la maladie entre nous ou à l'extérieur, devenir un vecteur de propagation ou devenir nous-mêmes un problème. Donc avant même que les mesures ne deviennent obligatoires, nous avons, comme vous vous souvenez, pris des mesures pour alléger la présence, pour réduire le va-et-vient de notre staff. Nous avons encouragé les staffs à travailler de chez eux et nous avons réduit la présence parce que nous savons qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important.
Madame, il y a quelques jours, vous avez annoncé qu'à la demande des autorités congolaises, vous alliez mettre à la disposition de l'équipe de riposte du matériel de la MONUSCO et des équipes médicales. Qu'est-ce qui a été fait par rapport à cette annonce?
Vous savez, le travail que nous faisons avec les autorités, la première chose, c'est que nous travaillons, comme j'ai dit, à ce que nous-mêmes ne soyons pas un fardeau et une charge pour le système sanitaire congolais. Donc, nous sommes en train d'essayer de renforcer nos capacités médicales. Nous avons même essayé de mettre en place un centre de traitement ici, à INCAL. Ça, c'est une priorité interne. Jusqu'à présent, comme vous le savez, nous croisons les doigts. Nous n'avons pas un cas dans la MONUSCO. C'est quelque chose qui peut arriver parce que quand la maladie se propage en interne, elle peut aussi nous affecter. Mais nous avons aussi travaillé avec les autorités pour appuyer leurs initiatives là où nous pouvons le faire. On a ramené du matériel qui va être mis à la disposition des autorités. Nous l'avons ramené de l'Est parce qu'ici, on n'en a pas. Et nous avons bien évidemment aussi appuyer les autorités, surtout dans les autres zones où le virus peut se propager. Mais notre rôle, c'est, comme vous le savez, un mandat sécuritaire. Il y a l'UNICEF, il y a le PNUD, il y a la FAO, il y a beaucoup d'agences qui font ce travail. Pour moi, c'est très important, l'expertise avec les autorités.
Puisque vous parlez de l'appui aux initiatives, l'on assiste actuellement à une multitude d'initiatives locales dans la production de matériel de prévention contre le COVID-19, par exemple. Il y a l'INPP qui produit des machines lave-mains automatiques ou l'ISAM qui se lance dans la production des masques de protection. Quel pourrait être alors, madame, l'apport de la MONUSCO et même globalement du système onusien en RDC, comme vous venez de le dire, pour appuyer ces ingéniosités locales pendant cette crise sanitaire?
D'abord, il faut saluer ce genre d'initiative parce que, comme vous le savez, le monde entier est occupé à gérer ses propres problèmes. Et on doit justement, je le dis sans arrêt, essayer de compter un peu sur soi-même. On ne peut pas dépenser des milliards pour ramener des masques de l'étranger. Comme vous voyez, moi, je porte un masque congolais. Donc, dès le premier jour, on a essayé d'encourager ce genre d'initiative. On a commencé à travailler en interne pour que même la MONUSCO, au lieu d'importer des masques, achète des masques locaux. C'est ça la première initiative. Je sais qu'il y a des programmes qui sont prévus aussi pour appuyer certaines communautés vulnérables dans certaines zones pour les aider à utiliser cette activité pour engendrer des revenus. Mais le plus important, c'est de pouvoir justement compter sur soi. Et donc, moi, je suis beaucoup plus ravie de voir que le génie local s'inscrit dans une démarche pour mettre à la disposition des populations des programmes comme ça. Nous, en tant que MONUSCO, nous devons fournir le masque à nos militaires qui sont peut-être en contact avec les populations. Nous avons des gens qui sont confrontés à des contacts au quotidien. On a la responsabilité de les protéger.
Madame la représentante spéciale, merci.
Je vous en prie.
Leila Zerougui, patronne de la MONUSCO, répondait aux questions d'Honoré Missenga Kalala. C'est la fin de ce journal, supervisé par Axel Goncho. Alain Rumouchinj l'a coordonné, la mise en onde de Polydor Basunga. Merci de rester des nôtres.